États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris, comme Donald Trump, prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huré.
Épisode 5, 2001. La démocratie assiégée et brutalisée.
Ce soir, nous sommes un pays averti du danger et appelé à défendre la liberté. Notre chagrin s'est transformé en colère et notre colère en détermination. Justice sera faite. George W. Bush, discours devant le Congrès des États-Unis le 20 septembre 2001. Là, on est à un point important, je crois, de cette série sur la démocratie américaine. Le 11 septembre 2001, les Américains immédiatement se disent « Nous sommes un pays attaqué, mais nous sommes aussi une démocratie attaquée ».
Oui, tout à fait, avec cette citation de George Bush qui se révèle. C'est un président qui a été mal élu et qui a été élu dans des circonstances qui montrent bien les limites de la démocratie aux États-Unis, mais qui très vite se transforme en chef de guerre. Il est abasourdi comme tous les Américains. Personne ne s'attend à une attaque sur le sol états-unien de cette ampleur et de cette inventivité, en quelque sorte. C'est très marquant.
Et les images.
Et les images sont... Et c'est volontaire. Ces images qui ont marqué toutes les générations qui les ont vues à la télévision. Et cela intervient dans un contexte totalement triomphant pour les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Les années 90 sont les années de la victoire et de la guerre froide. Certains parlent même de fin de l'histoire. On est persuadé que le modèle démocratique, libéral... états-unien va devenir le modèle du monde. Il n'y a plus d'ennemis. L'ennemi soviétique a disparu, donc il n'y a plus personne. Et ce modèle-là va s'imposer partout.
Oui, la démocratie dite de marché.
Dite de marché, qui peut tamiser le marché, qui peut avoir un espace pour le social.
Même la Chine va entrer dans l'OMC. Il y a quelque chose, effectivement. Ça y est, tout le monde y est. Tout le monde est dans la mondialisation.
Tout le monde est dans la mondialisation. Elle est heureuse. C'est la mondialisation heureuse. Clinton va incarner ça, la mondialisation heureuse. C'est l'ALENA aussi,
le 94,
avec le Mexique et le Canada.
Accord de
libre-échange. Les démocrates, les républicains, tout le monde est persuadé. Il y a un consensus complet sur le fait que la mondialisation a gagné, que le modèle états-unien a gagné et qu'il n'y a plus véritablement d'ennemis, à tel point que la CIA est un peu perdue dans un monde où beaucoup s'effondrent. Alors, ils surveillent ce qui se passe dans l'ex-URSS, mais finalement, il y a une vraie victoire. Et donc, personne ne s'attend à ça, même si aujourd'hui, beaucoup de signes avant-coureurs peuvent être mis en avant. Mais personne ne s'attend à cette attaque. Et j'ai en tête, moi, une image qui m'a beaucoup marqué, c'est le lendemain du 11 septembre, quand George Bush se rend sur les gravats, alors qu'on le dit déboussolé, il y a des images de lui dans une école quand il apprend,
Bien sûr. Est
complètement perdu, on le protège parce qu'il y a une menace d'attaque sur Washington, il y a un avion qui pourrait attaquer la Maison Blanche ou Washington, donc il y a une véritable angoisse dans tout le pays. Le lendemain, il devient président en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il il monte sur un tas de gravats et il prend un haut-parleur.
Je veux que vous sachiez tous qu'aujourd'hui l'Amérique prie à genoux pour ceux qui ont perdu la vie ici.
On ne vous entend pas, crie la foule.
Moi je vous entends et le reste du monde vous entend. Et les gens qui ont détruit ces immeubles vont bientôt nous entendre.
Et il annonce que l'Amérique entre en guerre pour la démocratie, pour la défense de la démocratie, et qu'il va mener une guerre contre la terreur, en mettant tous les moyens du pays. Et beaucoup disent que c'est là où il devient président, en quelque sorte. C'est pas son élection qui fait de lui un président, parce qu'il est mal élu. Mais c'est vraiment ce 12 septembre, quand tout d'un coup, il annonce une nouvelle phase essentielle pour les États-Unis, qui est la réponse des États-Unis à ce qu'on voit aujourd'hui comme un tournant dans l'histoire du monde et dans la géopolitique mondiale. Le 11 septembre, il dit haut et fort que les États-Unis vont prendre la tête d'une coalition et iront chercher les responsables de ce désastre, de cette attaque terroriste, là où ils sont.
Et une coalition qu'ils imaginent très très large, d'ailleurs, qui déborde même le cadre démocratique, même si, effectivement, tu as raison, pour eux, il y a le sentiment que désormais, le monde entier est derrière eux, avec eux, dans cette lutte du bien contre le mal, parce qu'il y a aussi cette dimension religieuse qui est très présente dans le discours américain.
Tout à fait, hein, et là, il va... Les attaques ont pour beaucoup de conservateurs une dimension messianiste.
Hein. Oui.
Faut pas l'oublier, et ça va beaucoup les marquer, hein, et expliquer aussi leur vision du monde. La démocratie et la religion états-unienne qui sont attaquées. Hein, et donc, on va avoir toute une rhétorique hein, très forte hein, qui emprunte au manichéisme de Star Wars et d'autres grands classiques.
Hein, on réactive.
Pour montrer qu'il y a un camp du bien, un camp du mal. Et ça expliquera la deuxième guerre du Golfe, cette idée du domino, hein, où on espère à un moment que tous les pays du monde arabe deviennent des démocraties, ce qui fait sourire aujourd'hui quand on voit 20 ans plus tard ce qui s'est finalement passé. Mais en tout cas, il y a une véritable espoir messianique hein, d'imposer définitivement la démocratie et de supprimer cette violence hein, extérieure hein, qui finit par abîmer la démocratie elle-même.
Oui, ce qu'on appelait The Greater Middle East, le grand projet d'un grand Moyen-Orient qui irait de la Mauritanie jusqu'au Pakistan et que les pays, les uns après les autres, se démocratiseraient pratiquement par magie, comme effectivement la théorie des dominos, pas de temps de la guerre froide, mais plutôt de l'après-guerre froide.
La France est sceptique, hein. Ouais. Dominique de Villepin dit on connaît un peu le monde arabe
mieux que vous,
vous vous trompez fondamentalement quand on repense aussi au discours de Villepin à l'ONU et à d'autres prises de position de la diplomatie française. Il y a l'idée que tout ça est un peu angélique ou naïf.
Ce qui est aussi intéressant et qui nous sort de la naïveté, c'est de considérer que certes, les Américains considèrent qu'ils luttent désormais pour la démocratie, même si dans un épisode précédent, tu as dit qu'il y avait des tas d'arrière-pensées économiques à Liberton qui reconstruisent, bien sûr, mais il y a quand même ce discours démocratique qui existe. Et en même temps, à ce moment-là, il y a des mesures qu'on pourrait qualifier d'antidémocratiques, qui sont prises aux États-Unis au nom de la sécurité. Ça, faut nous dire un mot du Patriot Act et de ce que ça veut dire de la mentalité américaine.
Oui, le Patriot Act fait partie, il y a eu d'autres épisodes avant, notamment pendant la Première Guerre mondiale, hein, de la mise en place de régimes d'exception aux États-Unis au nom de la défense de la démocratie, où on s'attaque à un élément cardinal de la démocratie qui est la liberté individuelle.
Oui.
Et là, les États-Unis sont un pays qui est très soucieux de sa liberté individuelle. Il n'y a pas de pièce d'identité aux États-Unis. On n'aime pas beaucoup les contrôles. Et on a l'impression que ça c'est le vieux monde, hein, la vieille Europe, où on a sans cesse... on déteste les conservateurs, à l'époque, disent le plus grand mal de la carte de sécurité sociale. Hein, ces chiffres-là qu'on vous donne, on vous donne des chiffres, et donc vous êtes entré dans des ordinateurs, etc. Là, on va voir le Patriot Act hein, qui va renier un peu cette liberté individuelle au nom de la protection des Américains, permettant des contrôles accrus hein, et un pouvoir de police de l'État fédéral qui est moins important. Hein. Le pouvoir de police aux États-Unis est souvent un pouvoir des États. C'est les États qui décident du pouvoir de police, peine de mort ou autre. Là, le pouvoir de l'État fédéral va se développer avec beaucoup de conservateurs qui pensent qu'il est nécessaire d'avoir un État fédéral très fort, avec des pouvoirs exceptionnels, en cas de crise majeure, hein, pouvoir prendre, y compris la place du pouvoir de police des États, ce qui est assez étonnant aussi quand on connaît la recherche d'équilibre aux États-Unis, en cas de crise majeure, et on a beaucoup de réflexions constitutionnelles hein, pour redonner une place centrale à l'État fédéral en matière de surveillance individuelle et de contrôle des libertés, en cas de crise majeure. Le risque, hein, c'est ce que disent beaucoup de constitutionnels, la notion de crise est à géométrie variable et on a vu comment un Nixon ou d'autres pouvaient jouer avec ces notions de crise et de malaise.
Ça, c'est les remises en cause de la démocratie à l'intérieur de l'État américain. Et puis, il y a surtout ce qui va se passer à l'extérieur. Parce que les guerres dites de libération en Afghanistan et surtout en Irak vont durer éternellement. Je me souviens de dirigeants américains dire que ces guerres ne finiront peut-être jamais, la guerre contre le terrorisme, et émaillé de scandales terribles, notamment sur la torture de la part des militaires américains. On se souvient de la prison d'Abu Ghraib. Tout ça interroge quand même l'idéal démocratique américain.
Absolument. Hein, il va y avoir une vraie opposition déjà dans le monde. Il ne faut pas oublier que la deuxième guerre du Golfe a fait naître des oppositions. Il y a des manifestations énorme. Importantes à Paris, à Londres et ailleurs. De la part d'alliés, d'alliés des États-Unis, qui ne comprennent pas cet engagement, qui ne comprennent pas... Et les révélations, tu as raison, sont tout à fait surprenantes.
Choquantes,
détestables de voir ces libertés prises avec le droit international, Haliburton qui s'arroge des pouvoirs en Irak... tout à fait exceptionnel, et si on ajoute les cas de torture, de surveillance massive, y compris d'alliés, on est bien loin des idéaux démocratiques états-uniens. Néanmoins, peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur l'effet retour.
Oui, très important.
Je crois que si la guerre à l'extérieur montre les limites de la démocratie à l'intérieur, il ne faut pas oublier la manière dont les guerres à l'extérieur ont eu des effets sur la démocratie à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on connaît bien en Europe, malheureusement, dans notre histoire. Les historiens parlent de brutalisation pour l'entre-deux-guerres, en disant la Première Guerre mondiale va créer une brutalisation du corps social après 1918. C'est-à-dire que les anciens combattants sont très présents dans l'espace public. On a la rhétorique est une rhétorique guerrière. On emprunte à des images de guerre, de feu, de brutalité, de massacre. Les États-Unis, c'est pareil depuis 20 ans. Je le dis toujours, en France, on regarde la société états-unienne comme une société en paix. C'est faux. C'est une société en guerre. Depuis le 11 septembre 2001, mais voire depuis le 7 décembre 1941. La guerre a été continue. Le pays a toujours été engagé dans des guerres extérieures ou de manière ininterrompue. Et avec des mobilisations de conscrits jusqu'à la guerre du Vietnam, puis de professionnels. Mais des millions de soldats partent combattre. Et ces soldats ont des familles. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 16 millions d'anciens combattants sur le sol états-unien. 2 millions de soldats dans l'armée de réserve et l'active. Ce qui veut dire qu'on a 18 millions de personnes qui portent ou ont porté les habits militaires. Ces gens ont des familles, participent à des circuits économiques. Et on sait qu'aujourd'hui, l'économie militaire est très importante dans beaucoup d'États. État du Sud, État du Midwest, État de l'Ouest. Donc on a un effet de brutalisation qui est important et qui finit par avoir des conséquences sur le champ politique. Depuis 20 ans, le champ politique états-unien est traversé par une violence rhétorique tout à fait exceptionnelle, des propos violents, et on voit cet effet retour, en quelque sorte. Des gens reviennent sur place et parlent des États-Unis comme d'un pays en guerre. On le voit au moment de Katrina, par exemple. Katrina, on a l'impression que...
L'ouragan Katrina.
L'ouragan Katrina, tout à fait, en 2005. On a l'impression
À Nouvelle-Orléans.
Qu'il faut répondre à une crise humanitaire par la guerre. Et on envoie des soldats, on quadrille la ville, c'est l'armée qui va intervenir. Et une partie de la population ne comprend pas et a l'impression, comme le dit un journaliste de CNN, d'être à Bagdad. On n'est pas à la Nouvelle-Orléans, on est à Bagdad et on va encadrer le pays. Donc il y a tous ces effets retours qui brutalisent le corps politique et qui ont des effets sur la démocratie.
Parce qu'il y a les hommes qui reviennent, et les femmes, mais surtout des hommes, mais il y a aussi les armements. Et on a des stocks d'armes de guerre qui sont désormais mis au service des polices. On a une militarisation de la police. Ça, c'est frappant, tout de même.
Oui, c'est frappant. Alors, la militarisation de la police démarre dans les années 60, face à ces mouvements étudiants, ces mouvements aux émeutes, etc. La police va très largement se militariser, mais tu as raison, cette militarisation va aller croissante, et avec des gens qui savent aussi se servir des armes.
Oui.
C'est pas tout d'acheter une arme ou de pouvoir le faire aux États-Unis. Il faut aussi s'en servir, savoir s'en servir. On reparlera sans doute du Capitole, mais le Capitole, on voit aussi qu'on a affaire à des gens qui savent prendre un bâtiment. Je sais pas toi, mais moi, je ne sais pas prendre un bâtiment.
Moi, il me faut ma carte d'accès pour entrer dans la radio.
Voilà. Mais monter sur un bâtiment, il faut une certaine connaissance des tactiques militaires. Et ils vont l'apprendre. Beaucoup passent par les guerres du Golfe. Et savent se servir des armes, connaissent les tactiques militaires. Donc une Amérique qui se militarise aussi à l'intérieur et une démocratie qui doit faire face à ces démons militaires. Je cite souvent le cas du Montana. Le Montana, c'est un État un peu idyllique aux États-Unis. On pense pas qu'il y ait des grandes discussions sur la migration ou les migrations ou un État qui serait grand remplacé. Ça reste une population majoritairement blanche. Mais il y a une très très grande peur de l'islam dans le Montana. Il y a une très grande peur de l'effondrement du monde. Et le vecteur de la transmission de la peur, c'est les anciens combattants. Il y a beaucoup de forts, il y a beaucoup de bases militaires dans le Montana. Et donc, on a des gens qui sont sur place, qui sont nés dans le Montana, qui ne connaissaient pas beaucoup le monde. Et la seule expérience qu'ils vont avoir du monde, ça va être Bagdad, la Syrie. Et donc, ils ont l'impression que le monde est d'une violence extrême et qu'il faut tout faire pour que l'Amérique se tienne à l'écart de ça. Parce que c'est un monde qui est fondamentalement hostile à la démocratie états-unienne, aux valeurs états-uniennes, et donc il faut combattre et élire des dirigeants comme Trump qui préserveront l'Amérique de la menace du monde extérieur.
Et de la menace parfois intérieure, tu évoquais. La prise du Capitole, c'est l'objet de notre prochain épisode, le fameux 6 janvier 2021. États-Unis, anatomie d'une démocratie, est un podcast original de France Inter.